Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caf. Salut Caf.
Oui, bonjour Fasquiel.
Tu as une voix de crooner aujourd'hui.
Écoute, je te vole ton XP sur les cordes vocales. Bon, j'ai fait une petite sortie avec des gens qui d'ailleurs, dont les noms ne seront pas complètement inconnus, hein, des gens qui connaissent Geekzone, puisque c'était une soirée cool pour revoir Rahan, qui est exilé au Canada, donc quand l'occasion se présente, ça fait toujours plaisir. Et puis, donc, on avait notre inénarrable et indispensable Mr. P avec nous. C'était une bonne soirée, mais du coup, effectivement...
ça laisse des traces. Hein.
Ça laisse des... Voilà, tu sais, hein, on ne rajeunit pas.
C'est clair. Après une émission live un peu rock'n'roll, on revient à notre bonne vieille formule pré-enregistrée où on coupe tous nos savonnages au montage.
C'est ça.
Et on va attaquer tout de suite avec la section gaming. On va parler bien évidemment de l'événement du moment, c'est l'arrivée d'Apple Arcade.
Alors voilà, l'événement du moment pour les gens qui ont des machines iOS et qui en tout cas suivent le monde du jeu vidéo, parce que ça va impacter mine de rien le monde du jeu vidéo, même si vous n'avez pas un iPhone ou un iPad ou une Apple TV, c'est qu'effectivement Apple lance son service à 5€ par mois environ. Pour avoir accès à une centaine de jeux directement dans votre téléphone, dans votre tablette, et ce ne sont que des jeux. Il n'y a pas de pay to win, évidemment qu'il n'y a pas de pay to win, mais pas de free to play surtout. Ce ne sont que des jeux complets avec des vrais jeux un peu de qualitatif, donc qui font une sélection pour pouvoir offrir dans cet abonnement quelque chose de vraiment sexy, déjà pour vous faire sortir l'argent de votre poche et leur donner. Mais évidemment, derrière, ils veulent avoir une offre sexy qui met en avant la plateforme et les capacités techniques des différentes plateformes Apple. Donc là, c'est disponible. Il y a quelques personnes qui ont accès au premier jeu depuis quelques jours déjà, puisqu'en fait, les gens qui étaient dans la bêta d'iOS 13 ont eu accès à une bêta d'Apple Arcade. Pas tous, mais certains. Et là maintenant, bon, iOS 13 est sorti hier soir. Donc vous y allez si vous avez envie. Mon conseil à 2 francs, alors vous savez à quel point j'aime upgrader mes OS Bleeding Edge dès que c'est disponible, mais la version iOS 13.1 sort le 30 septembre, et iPadOS sort également le 30 septembre, donc ne vous précipitez pas forcément, hein. Vous pouvez attendre la fin du mois, c'est pas dramatique. Et quoi qu'il en soit, Apple Arcade donc sera inclus dans cette version iOS 13 avec un mois gratuit. Donc au moment où vous allez installer, un mois d'essai gratuit, donc vous l'activez quand vous voulez, quand vous avez installé le nouvel OS. À mon avis, il n'y a pas matière à vous exciter pour l'instant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tellement de jeux que, il va falloir faire des sélections. Parce qu'en un mois, vous pouvez tout lancer, mais vous n'allez pas forcément vous rendre compte de ce qui est vraiment sexy, ce qui est vraiment très bien. Donc, je vous ai linké sur le billet qui accompagne le podcast à un post de Polygon qui fait une petite sélection de 14 jeux. Il y a Numérama qui a été aussi de sa sélection. Moi, j'ai repéré des trucs qui ont vraiment l'air super jolis, qui ont l'air assez originaux aussi, du style What the Golf. Ok, bon, je vais même pas décrire les jeux, mais il y en a un qui a un design qui est vraiment super sexy, qui s'appelle Spaceland, qui est un jeu de strat à tour par tour qui a l'air assez cool. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'assez cool. Tiens, voilà,
c'est premier plutôt assez cool.
Plutôt cool. Ah merde, tain, j'étais même pas sur le vrai.
Non, c'était très bien, assez cool. Je me suis dit, c'est parfait, il a réussi à esquiver.
Ben non, alors c'était plutôt cool. Voilà, je préfère assumer notre plutôt cool.
Oh, j'en ai fait plein dans les clairvoyants de cette semaine. Je me réécoutais hier, c'est horrible.
On doit faire un petit ding ding ding. Ça va te faire du taf, mais voilà. Puis les gens vont en avoir marre, j'avoue.
C'est clair.
Pardon les auditeurs. Spaceland, c'est un tour par tour qui est, on dirait, un XCOM mignon en fait. Avec des graphes super léchés, c'est vraiment sexy. Il y a un Exit the Gungeon qui m'intéresse à mort, puisqu'en fait c'est évidemment fait par la team qui a fait Enter the Gungeon, que j'adore, et c'est toujours un shooter excité, mais en side scrolling, avec toujours le design rigolo qui était déjà la patte du premier. Donc ça, c'est pareil, je veux voir ce que ça donne. Par contre, je vous confirme que vous allez être très content de savoir que iOS 13 gère les pads. Enfin, si vous le saviez pas, il faut rappeler que iOS 13 gère les pads Xbox et PlayStation 4, parce que pour ce genre de jeu, vous n'avez pas envie de jouer avec autre chose, hein. Pire que les limites de l'écran tactile vont se faire sentir très très rapidement. Il y a un truc qui s'appelle Shantae and the Seven Sirens, qui est un jeu d'aventure qui a démarré en 2002 sur Game Boy Color, donc on passe un vieux truc maintenant, mais qui continue d'évoluer et qui apparemment est hyper sympa à tester. Et si vous aimez les designs complètement barrés, il y a Sayonara Wild Hearts à tester, qui a l'air vraiment complètement taré. Et pour toi, je sais que t'aimes bien les petits jeux de bagnole vus de dessus, un peu débiles. Bon, ok, d'accord, tu n'as pas de device Apple, mais il y a un truc qui s'appelle Speed Demon et c'est un peu taillé pour toi. Et moi, j'adore ça aussi, donc j'irai voir ce que c'est. Bref, même si vous n'avez pas envie de vous abonner, vous avez un mois gratuit pour tester tout ça et ils sont suffisamment malins. Peut-être que vous allez craquer. Dans la liste, il y a aussi un petit gars qui s'appelle Ocean Horn 2, qui est cette espèce de petite copie de Legend of Zelda qui fait parler. Depuis le numéro 1, alors il y a des gens qui se moquent en disant que c'est pas terrible, etc. C'est pas si mal que ça. Et le 2, il a quand même des bons retours, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est quelques jeux parmi la centaine qui va être rapidement disponible et ils vont en rajouter régulièrement. Alors je vais juste rajouter un petit paragraphe entre guillemets sur ce Apple Arcade, c'est qu'il y a plein de gens qui se posent la question de savoir, mais alors comment ça va se passer pour les vrais jeux full price qui ne sont pas des free to play, mais qui veulent garder leur aspect payant, mais qui ne sont pas intégrés à l'Apple Arcade. Qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce que du coup, le marché va juste mourir pour eux? Est-ce que ça va... Au lieu de tirer le marché, Apple veut que ça soit en fait une manière de tirer le marché du jeu complet de qualité vers le haut sur iOS, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais du coup, ceux qui ne sont pas pris dans la sélection ou qui ne veulent pas être pris dans la sélection, quelle que soit leur qualité, comment ils vont s'en sortir? Donc on va voir comment ça va se dérouler dans les prochains mois, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'inquiétudes à ce sujet chez tous les spécialistes des jeux sur mobile, et j'avoue que c'est une inquiétude qui est légitime. On va voir un peu comment ça évolue. Ça risque même d'impacter les free-to-play, du coup, puisque là, tu payes ton abonnement, t'as plein de jeux où t'as pas de pub, personne vient te faire chier, te dire de venir jouer demain. J'attends de voir ce que ça va donner. En tout cas, le move est intéressant à suivre, et quoi qu'il arrive, il y a des productions de qualité dedans, donc ça vaut le coup d'y jeter un œil.
On parlait de Zelda, on va y rester avec The Legend of Zelda Link's Awakening. Les tests sont arrivés.
Voilà, le remake est là, les amis, ça y est, c'est fait. Alors, c'est là, c'est 8, c'est sur Gamekult, je vous ai linké le papier de Gamekult qui en dit beaucoup de bien. Évidemment, c'est une exclusivité Switch et c'est super joli. Il y a plein de petites nouveautés, de petits gimmicks dans le gameplay, mais sinon ça n'a pas bougé, hein. C'est un vrai remake, donc je vous laisse aller lire les tests partout. Pour l'instant, je n'ai pas vu un test discordant en disant oh non, c'est une arnaque, faut pas y aller, c'était mieux avant. Non, pour l'instant tout le monde trouve ça ultra joli, c'est assez ça, il y a des passages où les mecs disent ah oui, mais on se rappelle en fait les jeux c'était dur avant, ouais. Ça m'a fait marrer. Mais le design, après on aime ou on n'aime pas, je sais que c'est assez clivant. Il y a des gens qui ont décidé que le design n'était pas beau. Moi, au début, j'étais moyen fan. Franchement, maintenant, j'ai vu pas mal de vidéos et tout. Je trouve que c'est plutôt mignon. J'y ai pas joué. Je vous rappelle que je n'ai toujours pas recraqué pour une Switch. Peut-être un jour. Mais en tout cas, ça fait partie des jeux qui vont faire vendre des Switch et le nouveau modèle et la Switch Lite qui est disponible. Ça y est. Donc, je pense que le Noël de Nintendo, en tout cas, va bien se passer puisqu'ils ont encore plein de trucs d'ici à Noël. Mais ça fait partie des titres qui vont évidemment jouer sur la nostalgie à mort, et il y a des papas qui vont se laisser convaincre et des mamans, et donc je pense qu'ils vont en vendre des cartons.
Et puis on va parler de Blasphemous,
un petit titre qui est dispo sur PS4, Xbox, Switch, PC. C'est un Castlevania fait par The Game Kitchen, et c'est un Castlevania un peu barré avec un scénar, je vais même pas essayer de vous l'expliquer, hein. Ça se passe dans une espèce d'Espagne de l'époque inquisition barré Dark Souls, tu vois. C'est complètement taré, mais le design est ultra intéressant. C'est pareil, noté excellemment bien partout. Moi je dis qu'il faut y jouer juste parce que votre épée s'appelle Mea Culpa. C'est la seule arme qu'on a pendant tout le jeu et qu'on upgrade en fait pendant tout le jeu. Une épée qui s'appelle Mea Culpa, et que c'est génial. Et évidemment, tous les trucs, même les game over, tout ça, ils ont tout fait autour de la religion un peu barrée. Je vous ai linké aussi une vidéo de Mister AV qui essaye le jeu, qui me fait beaucoup rire parce que les jeux vidéo c'est difficile parfois, surtout en stream quand tu lis pas la doc. Il n'y a jamais de doc, ça tombe bien. Mais voilà, c'est vraiment, si vous aimez les Castlevania en 2D avec les petits secrets à la con, les plateformes qui se dérobent, les ennemis un peu retors, c'est vraiment pas mal. Je vous ai aussi linké le test de Gamekult. J'aime beaucoup le côté, il faut jouer vachement avec le pari, en fait, pour pouvoir se débarrasser de pas mal d'ennemis. Mais le design est vraiment fabuleux, l'ambiance est hyper, vraiment intéressante, recherchée, différente. The Game Kitchen, vous n'avez pas habitué à des trucs aussi originaux, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, si, parce que leur production précédente était effectivement un peu compliquée, mais en tout cas là, c'est, on va dire, plus facile d'accès, mais pas plus facile à jouer. Donc voilà, allez voir ce que ça donne. Je pense que c'est un titre qui se marie très bien avec une Switch, là encore. Je vais arrêter de faire la promo de cette console.
Oui, tu vas finir par en racheter une, ouais.
C'est ça. Non, mais en fait, je m'auto-perds. Je vais me faire avoir tout seul. C'est pas ton con. C'est, faut arrêter. Là, j'en ai pas besoin. Voilà, stop.
Allez, on passe du côté des apps avec le retour d'un ancêtre NetNewsWire.
Ah là là, tu te rappelles, Joystick, ouais. Le ouais, magazine. Ouais. je suivais les feeds RSS quand j'étais rédacteur chef de Joystick et même avant avec donc NetNewsWire 5. Enfin, NetNewsWire, qui revient dans une version 5, il est passé dans les limbes pendant 1000 ans, ça a été vendu, puis racheté, les mecs ont promis qu'ils allaient le refaire, et puis finalement non, etc. Au bout d'une péripétie incroyable, nous nous retrouvons avec une version 5 qui est gratos, sur macOS toujours évidemment, mais qui est open source aussi, et en plus géré par le mec qui a créé le logiciel.
D'accord.
Donc voilà, il a fait le tour de la planète et le truc est revenu chez son créateur. C'est pas du tout le soft le plus puissant du marché, hein. Il y a beaucoup mieux, il s'intègre avec peu de services encore pour l'instant, donc en termes de synchronisation, c'est pas non plus évident. La version iOS est en développement par un autre mec, mais elle est pas encore dispo. Je voulais en parler parce que c'était rigolo, ça fait partie des news qu'on a écrit cet été, et du coup, donc on n'avait pas repris dans Torréfaction, vu que Torréfaction était en vacances. Ouais. Je voulais le mettre en avant parce que, mine de rien, si vous voulez juste un petit soft pour suivre vos RSS sur un Mac sans vous prendre la tête, testez celui-là. Il évolue régulièrement. Bon, ils savent qu'ils ont des manques. Moi, il manque un truc vraiment pénalisant, c'est que quand j'ai ma liste de news, j'aime vraiment bien avoir une vignette tirée de la news, en fait, et pas juste l'icône du site. Et ça, ils ne l'ont pas pour l'instant et ça m'agace. Donc, c'est pour ça que je préfère Reader de loin. Pour l'instant, Reader 4 reste de loin le meilleur du marché sur macOS et iOS. Enfin, à mon sens, hein, quand je dis ça, je vais certainement énerver les ayatollahs d'autres produits, mais pour moi, c'est vraiment le meilleur, et surtout qu'il se synchronise particulièrement bien avec mon copain InnoReader. Donc forcément, les deux marchent bien. Et InnoReader à surveiller aussi, parce que si vous n'aimez pas installer des trucs sur vos machines, mais que vous préférez utiliser des web apps, InnoReader est en train de tester en bêta test sa nouvelle interface. Après un début un petit peu compliqué, c'est pour ça que c'est en bêta, hein, c'est normal. Ça s'améliore de jour en jour. Donc si vous êtes déjà sur InnoReader, vous pouvez aller checker. Je crois que c'est open, hein. Il suffit de cliquer sur le bouton tester la nouvelle version, etc. Et puis vous pouvez revenir à l'ancienne si ça vous plaît pas ou quoi au caisse. Donc voilà, InnoReader qui évolue aussi de son côté.
Et puis tu continues ta phase d'exploration nostalgique du côté de l'Amiga.
Ouais, cet été, ça a été dramatique, les gars. J'ai fait 54 news Amiga, mis un émulateur Amiga et tout. C'est oulala. Donc je voulais juste mettre en avant et vous dire d'aller lire les deux plus gros papiers que j'ai fait sur le sujet, qui sont dédiés à Cluento Amiga Forever 8, qui est un des packs emblématiques d'émulation pour l'Amiga, qui existe aussi pour le Commodore 64, mais qui est moins intéressant, dans la mesure où la version Amiga, c'est la version dépositaire des ROM officielles. Donc c'est la seule manière vraiment légale d'avoir les ROM propres des différents Amiga du marché. Donc une fois que vous l'avez acheté une fois, bah, au moins vous êtes peinard. Et puis là, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts sur l'intégration de la gestion des claviers quand on est sous Windows, quand on a besoin de faire des raccourcis qui sont pas forcément dispo sur nos claviers, etc. Par rapport à l'Amiga, c'est beaucoup mieux géré. Il y a un patch qui vient de sortir la semaine dernière, en plus, qui améliore vachement Amiga Forever 8, qui lui est sorti en début d'année. Donc ça, c'était là. J'ai tout expliqué dans un petit dossier dédié qui est linké dans le billet qui accompagne le podcast. Et de même pour un autre truc qui s'appelle AmiKit X. Qui est l'évolution d'un projet de cœur, comme on dit, qui est fait par un mec des pays de l'Est qui s'appelle je ne sais pas comment on prononce, donc je vais juste dire Jan. Tu sais, il y a cet accent qu'on n'a pas en français, en fait, dessus, oui. Là. Moi, je peux pas le dire, donc vous irez le lire sur geekzone.fr, vous n'allez pas me hein, voilà. Et depuis 2005, ce mec fait des packs complets d'émulation pour WinUAE et qui vous permet d'avoir un environnement complet d'Amiga OS, mais en version desktop. C'est pas forcément fait pour émuler des jeux directement Amiga. On n'est pas là pour émuler un Amiga 500 vite fait pour lancer un vieux jeu. C'est pour voir ce qu'il existe comme logiciel, lancer des jeux installés sur des HD virtuels, etc., etc. Et sa dernière version, bah, elle est juste incroyable. Ça gère directement vos drives de PC, donc ça peut aller chercher vos jeux installés sur HD loader, etc. C'est ultra complet. Alors évidemment, c'est pas gratuit parce que le boulot qu'il y a derrière est incroyable. Il a même maintenant fait un updater automatique, etc., etc. Et il a même mis sur le marché une clé USB qui est basée sur une version Linux, en fait, qui peut démarrer toute seule. Sauf que bah, sur les machines très modernes, enfin un peu trop modernes, ça, la couche Linux est un peu trop limitée pour que ça démarre de manière simple, on va dire. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc vous irez voir. J'ai fait tout un dossier. Il y a toutes les photos, les vidéos de présentation, etc. Dont une photo qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais que j'adore. C'est la collection d'Amiga d'un mec qui se fait insulter en fait sur Reddit parce que tout le monde dit mais pourquoi t'as pas besoin d'autant d'Amiga, tu devrais en vendre quelques-uns, espèce de hoarder. et voilà, donc il y a ça, c'était mes dossiers Amiga. J'ai fait des news sur à peu près tous les émulateurs qui étaient dispo cet été. J'ai fait ok, voilà, je vais faire le tour et après j'arrête. Donc voilà, ma phase Amiga est terminée pour l'instant, tout va bien, je peux respirer. Je ne m'énerve plus quand je vois des potes qui en restaurent des superbes physiquement parce que je n'ai pas la place d'avoir la machine chez moi quoi qu'il arrive. Donc voilà, vous irez regarder tout ça si vous avez la fibre nostalgique. En attendant, c'est un truc à noter, c'est que la scène d'émulation Amiga avec ses packs, ces trucs-là, ben, y a pas l'équivalent en fait sur les autres machines, en particulier sur Atari. Il y a évidemment une scène d'émulation, etc. Mais si vous avez des adresses ou des gens qui font des packs aussi complets, ben, balancez-nous des infos parce que moi, j'ai rien trouvé et même les gens qui sont fans avaient tendance à me dire sur Twitter cet été quand je publiais ces trucs-là, mais en disant bah, c'est vachement dommage, on n'a pas du tout l'équivalent nous sur nos machines, ça fait bien chier.
Allez, on passe du côté de la culture avec une news qui va te faire plaisir, puisqu'il s'agit d'une nouvelle série avec Kobe Smulders.
Ah, bah, mon petit bonhomme, ah, comment tu m'apprends rien, parce que il y a des trucs où, ok, c'est bien, je suis pas au courant, je ne regarde pas. Elle est dans mon... je l'ai commandé à mon cousin d'Amérique depuis
Robert Sonnard.
Robert Sonnard est au courant depuis très longtemps. Tu m'étonnes. C'était j'étais tellement au taquet sur cette histoire qu'il y avait même pas une image en fait dans Robert Sonnard.
Stumptown, donc, qui démarre le 25 septembre, mercredi prochain, sur ABC. Alors c'est quoi Stumptown? C'est une série basée sur un comics du même nom, ce qu'on appelle plutôt une graphic novel, qui a été créée par Greg Rucka en 2009, qui a rencontré un certain succès et qui a été notamment nominé pour un Eisner en 2011, donc c'est pas rien. La série, pour sa part, elle a été créée par Jason Rickman pour ABC. C'est un format classique 45 minutes qui se déroule principalement à Portland et qui raconte les aventures de Dex Parios, incarné donc par Smulders, une ancienne marine reconvertie en détective privé pour rembourser ses dettes. Elle doit de la thune notamment à un gros casino, le Whispering Winds, et elle doit aussi s'occuper de son frangin qui apparemment est un petit peu handicapé et donc ça lui coûte des sous. Je vous en dis pas plus parce que de toute façon on n'en sait pas plus. Il y a un trailer qui est sorti, on vous le linkera dans le billet qui accompagne ce podcast. La série, comme je le disais, sera donc diffusée à partir de mercredi prochain. On n'a pas d'infos encore sur le nombre d'épisodes, ça va probablement dépendre du succès, mais pour le moment les critiques du pilote qui sont sorties dans la presse principalement américaine sont excellentes. Elles mettent en avant la performance de Smulders qui dans son rôle d'anti-héroïne est plutôt au taquet. Donc je t'avoue que j'étais pas très motivé par le trailer, et puis là tout à coup, maintenant que je lis un petit peu plein de bonnes choses sur le sujet, je me dis que je vais peut-être quand même accrocher finalement. Donc chez moi c'était chez Robert Sonnard aussi depuis très très longtemps. Je me demande d'ailleurs si on n'avait pas parlé un moment sur Slack.
C'est possible.
C'est pour ça aussi, mais voilà.
On suit beaucoup l'actualité des gens importants pour nous.
Stumptown, donc, le 25 septembre prochain sur ABC. Et puis, je voulais faire une petite recommandation musique parce que j'en vais pas souvent. Très rapidement, Interior Person, c'est le premier album de Samantha Sidley. Alors, Samantha Sidley, c'est une nana que vous connaissez peut-être pas, mais qui est une vocaliste, en fait, qui a principalement bossé en backing vocals pour des formations comme M83 ou encore les Foo Fighters, puisqu'elle était avec eux en tournée depuis 2 ans. Et c'est un album que je classerais dans la catégorie jazz easy listening. Ça rappelle un peu Madeleine Perroux et Lisa Ekdahl, que tu connais bien, je pense,
oh,
Caf.
Yes, yes, yes.
Et la nana a une personnalité assez forte, les paroles sont assez drôles. Voilà, l'album est sorti le 13 septembre dernier sur le label Release Me Records. Ça s'appelle Interior Person. On va écouter un petit extrait très vite d'un morceau avec un titre qui me fait beaucoup rire, qui s'appelle Butterfly in My Ass.
Excellent titre.
I'm thorn in my side and a chip on my shoulder. Had a cramp in my style and a burden like a boulder. And now that I've outlasted, put the things in the past, I got a butterfly in my ass. I had a bone to pick, and so I lost my stride. My bone, it lost its only trick, and so I lost my ride. And now that I've outlasted, put the things in the past, I got a butterfly in my ass.
Samantha Sidley donc sur son premier album solo Intérieur Personne, le morceau Butterfly in my ass. On passe du côté de la tech avec des nouvelles du Wi-Fi.
Ouais, le Wi-Fi, ouais, c'est vachement pratique, trop bien. Allez, news suivante. Ah non, c'était pas ça. Bon d'accord, ok. J'ai fait une petite news cette semaine que je vous link dans le billet qui accompagne ce podcast comme d'habitude sur l'arrivée, enfin pas l'arrivée, mais l'arrivée de la certification Wi-Fi 6 pour les constructeurs. Donc ça y est, ils vont pouvoir faire valider leur produit pour avoir un joli sticker. Non, il est très moche comme d'habitude. Hein. Mais Wi-Fi 6 certified pour dire que bah, voilà, maintenant ils ont leur nouvelle, ils peuvent ça va plus vite, ça gère plus de devices, etc. Donc le vrai nom technique de la bestiole, c'est le 802.11ax, et comme les gens qui gèrent ce qu'on appelle la Wi-Fi Alliance, les gens qui gèrent les programmes Wi-Fi pour les certifications, se sont rendu compte que c'était quand même bien chiant, tous ces noms que plus personne ne comprenait. Maintenant, tout est simplifié, donc le 802.11ax, c'est donc le Wi-Fi 6 dont je viens de parler, le AC qu'on avait avant, c'est le Wi-Fi 5, le N, c'est le Wi-Fi 4, et comme je l'ai dit de manière poétique sur Geekzone, tout ce qui était avant, c'est du caca, donc on s'en intéresse pas. Et je crois, je sais, ils ont même pas de mine de don, hein. On s'en fiche.
Ils sont pas fait chier, ouais.
Ça n'existe pas, c'est mort. Et donc, il y a un moment, il faut upgrader, et, parce que, évidemment, tout ce qui était d'avant était non seulement lent, mais en plus des putains de passoires au niveau sécurité. Donc, merci de vous débarrasser de ce genre de produit. La bonne nouvelle justement du Wi-Fi 6, c'est que maintenant pour la sécurité, ça passe au WPA3. Le WPA3, il y a une nouvelle techno à l'intérieur qui s'appelle le SAE, qui est, j'aime beaucoup là d'ailleurs ce que ça veut dire, c'est le Simultaneous Authentication of Equals. Tu vois, soit j'ai fait une faute parce que je fais de la francise le truc dans ma tête au même moment et du coup ça marche pas du tout, c'est une horreur. Donc évidemment vous pourriez me dire, eh ben Kaf, explique-nous ce que c'est, et je vais vous dire, bah cliquez sur le lien pour aller voir la page Wikipédia parce qu'il faut pas déconner non plus. Et puis alors il y a un moment où on est entre nous, on voudrait que ça reste un peu convivial et puis personne va rien comprendre.
C'est ça.
Donc du coup vous allez sur les news de Geekzone et en plus vous allez avoir un joli petit graphique pour les gens un peu, enfin qu'on parle envie de lire des gros papiers techniques, qui est fait par la Wi-Fi Alliance pour vous expliquer pourquoi le 11AX c'est génial, pourquoi le Wi-Fi 6 en fait c'est vachement bien. Évidemment ça va plus vite, mais on s'en fout, on n'aura jamais le max théorique, hein, comme d'habitude, on l'avait déjà pas sur celui d'avant. Mais ce qui est hyper important, c'est que ça peut gérer 30 à 50 appareils. Quand on voit combien on commence à accumuler d'appareils en Wi-Fi dans une maison, une maison avec des gamins en particulier, ça peut monter très très vite. Donc maintenant, c'est le but du jeu, c'est de décongestionner les réseaux, de gérer beaucoup mieux ce genre de truc. La problématique, c'est qu'il faut que tout le monde dans le périmètre, enfin, il faut pas avoir d'interférence si tu veux d'autres réseaux.
Ouais, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et si quelqu'un a un Wi-Fi inférieur dans le même espace, c'est le bordel.
Ça peut commencer à foutre la merde, puisque la bande passante est divisée de manière intelligente dans le Wi-Fi 6, mais du coup, on va se retrouver avec des télescopages de bande passante sur les mêmes fréquences avec les anciens. Donc, c'est un problème. Donc, dans les immeubles, ça va être la merde encore un moment, je vous rassure. Mais bon, c'est des technos qui s'imposent sur plusieurs années. Et si vous cherchiez à savoir qui est déjà compatible avec ce truc-là, bon, évidemment, côté routeur, vous avez les vaisseaux spatiaux, il y a le dernier Netgear Nighthawk, enfin, c'est leur dernière gamme, c'est tellement le X-Jet des X-Men en train de se garer que ça me fait délirer, ce truc avec les antennes sur les côtés, là, qui sont complètement intégrées à la coque. Donc ça, il y a toute, évidemment, une gamme de routeurs qui va être certifiée Wi-Fi 6, qui est en train d'arriver, c'est pas les moins chers, je ne vous le cache pas. Côté téléphone, l'iPhone 11 et 11 Pro, Apple en a rien à foutre de la certification officielle, mais évidemment, évidemment, c'est compatible Wi-Fi 6. Les Samsung Galaxy Note 10 est compatible. Le Pixel 4 de Google qui arrive en octobre aussi. Et plus généralement, tout ce qui est équipé de Snapdragon 855 va être compatible. J'imagine que les nouveaux Mate 30, 30 Pro, etc. chez Huawei, qui n'a pas Google, mais à mon avis, ils ont le Wi-Fi 6. Donc, ils n'ont pas la même problématique. Et côté PC, tout ce qui est un CPU Intel, Ice Lake ou Comet Lake, donc les derniers, c'est intégré dans le CPU. Donc, ça marchera nickel. Et puis, de toute façon, sur PC, si vous n'avez pas le Wi-Fi 6 sur votre machine en général, sur un ordi, vous pouvez toujours mettre un dongle qui vous rajoutera du Wi-Fi 6, même avec les limitations du port USB, ça peut rendre service. Donc voilà, c'est dispo et maintenant ça va mettre des années à se répandre partout, mais vous savez que ça existe et vous avez la liste des correspondances sur MyNews, comme ça quand on vous posera des questions, vous aurez l'air super intelligent.
Allez, on passe à la suite avec des news du côté des services de streaming. On se plaint souvent qu'il y a de plus en plus de boîtes qui lancent leurs propres services de streaming propriétaires avec du contenu exclusif. Eh bien, ça ne va pas s'arranger. et puis, parce que maintenant, il y a des alliances. Alors, on sait que Canal+ est un peu en perte de vitesse sur le marché français, notamment depuis qu'ils ont perdu les droits du foot.
C'est vrai. Tu dis ça gentiment, c'est bien.
je reste dans l'euphémisme. Ils ont perdu les droits du foot et puis ils sont de toute façon, de manière globale, en perte d'audience depuis des années. Et puis, l'arrivée prochaine de gros ténors comme Disney+, et dans une moindre mesure Apple TV+, les font flipper Netflix aussi, et donc du coup ils ont décidé de s'associer pour proposer un bouquet conjoint. C'est le premier deal du genre en France et ce sera disponible à partir du 15 octobre. Alors attention, c'est pas donné, le prix du bundle c'est 35€ par mois, donc pour avoir Canal+ et tous les services associés plus Netflix. Et a priori, Canal serait aussi en discussion avec Disney+, mais là, on n'a pas plus d'infos à ce sujet. On l'a dit, multiplication des plateformes de streaming, donc ça coûte de plus en plus cher pour les utilisateurs, donc c'est logique pour les fournisseurs de contenu d'essayer de combiner leurs offres à un prix préférentiel pour essayer de vous accrocher quand même à tirer vos thunes dans votre portefeuille, même si on va pas se mentir, 35€, ça reste beaucoup. C'est une somme symbolique quand même assez importante, donc faut voir si vraiment ça vaut la peine et pas plutôt juste prendre Netflix. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Canal+? C'est la question que je me pose. Bref, je voulais en parler quand même parce que c'est important et puis ça va probablement pas être la dernière combinaison de ce genre. Comme je le disais, ils sont en négociation avec Disney+ et je serais pas étonné que les autres services de streaming commencent tout doucement à trouver des moyens de faire des alliances pour lutter contre la mainmise de Disney+, qui fait quand même un peu peur à tout le monde, surtout avec son tarif à 6$ qui fait absolument flipper toute la planète.
Mais tu sais ce qui va se passer, mon ami Fasquille?
Non.
Il faut qu'on continue de mettre à jour l'adresse de Bob Sonnard et de Robert Plec.
C'est ça, oui.
C'est important. Ce tuto va gagner d'importance. Ça n'a rien à voir. On parle d'amis à l'étranger.
C'est ça.
Je ne sais pas de quoi tu parles.
Des news pour nos amis podcasteurs, puisque Blue, cette marque mythique de l'univers du podcast, qui avait sorti le Yeti, qui est un des micros les plus populaires dans le monde du podcast amateur, vient d'annoncer.
Le plus populaire même.
C'est vrai.
Il y a eu plein de sondages, etc. C'est le plus vendu et le plus populaire pour le podcast.
Moi, je vous parle derrière un Yeti, donc c'est bien la preuve qu'il y en a partout. Donc, ils ont annoncé la sortie prochaine d'un Yeti X. On se souvient que la boîte avait été rachetée en juillet 2018 par Logitech. Donc, du coup, ils ont commencé aussi à développer une offre logiciel, mais ça on en reparlera plus tard parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de tester encore. Et donc ils ont annoncé ce Yeti X qui est plus une évolution, comme je le disais dans la news que j'ai écrite cette semaine sur Geekzone, qui est plus une évolution qu'une révolution. Ils ont un petit peu affiné les formes du micro, qui est un petit peu plus angulaire, moins rond qu'avant. Il y a un nouveau potard en face avant, et ça c'est plutôt cool, ça y est je l'ai fait, qui gère à la fois le niveau d'enregistrement et le volume, mais surtout qui dispose désormais d'un affichage LED pour visualiser en fait le gain en temps réel, et ça c'est vraiment bien parce que on n'avait pas ça en fait sur les anciennes versions, et c'est vrai que c'était pas toujours facile de pouvoir jauger de son volume sonore sans avoir un retour directement dans le casque, et puis en plus le retour directement via le micro, tu pouvais pas vraiment le paramétrer, donc c'était un peu compliqué. Maintenant tu peux aussi faire ce qu'ils appellent du blend, donc tu peux mixer en fait l'audio de ton PC et l'entrée sonore du micro dans ton casque directement en le branchant sur le micro.
Nice.
Ce qui te permet vraiment d'avoir un setup assez confortable, donc ça c'est chouette. Côté technique, quelques nouveautés, mais pas énormément non plus. C'est toujours un micro à condensateur. Il y a 4 capsules, cette fois-ci au lieu de 3 dans le Yeti classique. On est passé du 16 bits au 24 bits. Et on a toujours la possibilité donc de choisir le mode de fonctionnement. Comme sur le Yeti classique, on peut choisir de fonctionner en cardio, en omni, en bidirectionnel ou en stéréo. Ça n'a pas bougé. La nouveauté, Logitech oblige, c'est qu'il y a un logiciel, donc je le disais, qui s'appelle Voice, qui va rajouter donc des effets assez intéressants. C'est pas des effets pour changer ta voix, avoir une voix de robot, avoir une une voix de troll, c'est du depop, de la réduction de bruit, un expander, un gate, du DSR pour supprimer un petit peu les S qui sifflent, un EQ, un compresseur, un limiteur, bref, il y a vraiment tout ce que tu as d'habitude dans une petite mixette qui est embarquée directement dans le micro via une offre logicielle. Ça c'est une très bonne nouvelle. Le petit bémol, et ça m'a fait beaucoup rire toi aussi d'ailleurs, puisque c'est ce qu'on avait lu sur le site c'est Review Geek en fait, qui a fait une review du micro et qui est parti dans une tirade sur la connectique. Savoir que avant sur les Yeti on avait une connectique en mini USB, ils sont passés à une connectique en micro USB, et on va pas se voiler la face, c'est pas ce qu'il y a de plus solide sur le marché pour un micro qui est quand même supposé être un peu mobile, qu'on peut transporter, mettre dans son sac à dos, etc. C'est pas vraiment génial. Comme nos amis de Review Geek, on aurait préféré quelque chose d'un petit peu plus pertinent, comme de l'USB-C par exemple, mais
ça
bon,
me paraît
on fera
la base,
avec.
Ouais.
Donc ça, c'est le seul petit reproche qu'on peut lui faire. Il sera disponible à partir du mois d'octobre, on peut déjà le précommander. Il est relativement plus cher que le Yeti classique, il est quand même à $170 au lieu de 130 pour le classique, mais souvent avec Yeti, avec la gamme Blue, en fait, il y a des promos qui permettent de l'avoir quasiment à moitié prix, donc ce serait vous, j'attendrai une de ces promos pour le commander. Ça vaudra probablement le détour. Moi, je pense que ça va être mon prochain micro quand il va être temps d'envoyer celui-là à la retraite, parce qu'il est beau. Et parce qu'en plus, il y a ce potard magique à l'avant qui est vraiment le truc qui manque au Yeti actuel.
Ouais, c'est surtout très pratique parce que du coup, il n'y a pas besoin avec tous ces modèles-là, on peut faire de l'enregistrement de qualité sans table de mixage, etc.
Exactement.
Ouais. Parce que le deuxième micro le plus populaire du marché, c'est celui que j'ai, c'est le Shure SMB7.
C'est pas le même budget non plus.
Et voilà, et en fait, c'est pas le même budget. Parce que déjà le micro est plus cher, et ensuite parce que c'est pas du tout la même techno sur le micro. Moi, je peux avoir le ventilo dans mon dos et taper sur mon clavier, vous entendrez rien, ce qui est l'avantage. C'est le micro qu'ont plein de streamers justement parce que la façon dont ils gèrent le bruit ambiant est très, très intéressante. Mais en revanche, il faut une table de mixage, il faut pouvoir l'entrer. Enfin, en termes de, on rentre dans une prise de tête qui n'a plus rien à voir, je confirme. Quand j'ai fait le switch, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup mal à la tête. Et franchement, le Yeti X, du coup, va se positionner assez tranquillement sur le marché. Et surtout, ils se remettent à niveau, puisqu'il y avait eu des arrivées dernièrement comme le NT1 USB chez j'ai oublié le nom de la marque, mais je crois que c'est pas Shure d'ailleurs, je dis une bêtise, ça doit être chez Rode je crois, enfin un classique en tout cas, c'est le NT1 USB, cherchez sur Google, vous allez le trouver directement. Celui-là c'est pareil, c'est un produit un peu plus cher mais qui fait un carton chez plein de gens, parce qu'effectivement c'était une très bonne qualité de son pour un rapport qualité-prix, avec un filtre anti-pop livré en standard, etc. C'était plutôt très malin. Donc bon, de toute façon, vu l'explosion du podcast, évidemment le marché du micro a suivi derrière.
Blue Yeti X donc, et je vous linkerai le papier que j'ai écrit cette semaine et qui renvoie vers le site officiel avec toutes les caractéristiques techniques pour les curieux. Des nouvelles du côté de Google Chrome, enfin plutôt des mauvaises nouvelles, puisque on a vu apparaître récemment des faux ad blockers.
Ouais, ça fait un moment qu'ils sont là en fait, ça fait un moment que les gens essaient de les faire dégager, mais ça ne marche pas. Donc pareil, je vous ai fait une petite news cette semaine pour vous mettre en garde, et surtout que vous mettiez vous en garde les gens qui n'écoutent pas de podcast ou qui ne sont pas forcément aussi au top que vous en termes d'informatique. Pour vous prévenir qu'il y a des fausses versions de uBlock et de AdBlock qui tournent, qui sont en fait, alors pas des virus et pas des trucs horribles derrière, mais en fait les mecs utilisent ça pour faire tourner de la pub dans votre dos et faire des arnaques aux liens d'affiliation qui s'affichent pas, en fait vous êtes pas au courant. Les gens qui sont à l'origine de la découverte, bon, il y en a plusieurs, mais ceux qui sont à l'origine de la publication d'un billet intéressant qui explique techniquement ce qui se passe, ce sont les petits gars de chez AdGuard qui font un excellent AdBlock justement. Ils prêchent évidemment pour leur paroisse, mais là pour le coup ils ont vraiment raison de mettre en avant le truc, et c'est expliqué très de manière très technique avec toutes les infos qui vont bien. Donc si vous avez le niveau, c'est vraiment vraiment cool, mais la problématique derrière c'est que en fait ce truc est pointé du doigt par plein de gens depuis un moment et que Google n'a toujours rien fait. Alors Google fait plein d'annonces en expliquant que il y a plein de faux trucs et de merde sur le Chrome Web Store, il faut faire des choses. Et alors oui, très bien, sauf qu'ils sont en train de partir dans des directions techniques hyper chiantes, et que quand on leur dit mais si vous regardiez juste ce que vous mettiez en ligne déjà, ce serait pas mal quoi. Et donc il y a des comics qui sortent sur le sujet, je vous laisse aller voir celui que j'ai mis dans la news de Geekzone puisqu'il est assez explicite, c'est un classique du genre. Et la problématique c'est que tout le monde leur a dit, donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant, et ils sont en plus d'autant plus facile facile de voir qu'il y a du foutage de gueule XXL, c'est que les produits s'appellent clairement Adblock, avec la même typo, etc. Ils ont pompé le logo, et c'est fait par Adblock Incorporated. Donc, si tu sais pas que le vrai Adblock est pas fait par eux, bah, déjà, tu as un petit, tu te fais avoir, évidemment. Et le Ublock, c'est pareil, hein, ils ont repris un peu l'identité graphique. Et la blague, c'est que derrière, tu te retrouves avec des produits qui sont notés entre 4 étoiles et demie et 5 étoiles, avec, pour le faux Ublock, plus de 1272 commentaires.
Pas du tout suspect.
Voilà, je veux dire, tout va bien, il y a tout le monde qui dit que c'est génial, etc. C'est vraiment des trucs très bien mis en place. Et la blague, c'est qu'en plus, pendant genre 60 heures, tu ne verras pas la différence. Donc, parce que le truc se déclenche pour commencer à arnaquer la planète, se déclenche au bout de 50 à 60 heures, en fait. Pour essayer d'être un peu discret, quoi. Donc voilà, donc faites attention et surtout, bah, vérifiez les machines de vos amis moins éduqués que vous, parce que je pense que ça, c'est encore pas très grave, j'ai envie de dire, mais si on va se retrouver avec le même genre de truc qui va miner du Bitcoin, et que les mecs vont vous appeler pour vous dire, ah, ma machine, elle est lente, je comprends pas pourquoi. Bon, bah voilà, ça sera un élément de réponse possible.
Et on va continuer et terminer même avec un autre foutage de gueule, et je pense que ça mérite même carrément un jingle JPKF, même si ça sera pas toi qui en parlera, je pense que ça le mérite.
Allez, go, je te le prête.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Facebook, nos amis de Facebook, amis entre guillemets, qui continuent de faire absolument n'importe quoi avec nos données personnelles. Et là, on a découvert le poteau rose via iOS 13, justement, qui a priori a donc élevé encore d'un cran les vérifications et les sécurités sur les appareils d'Apple, si je ne dis pas de bêtises,
ouais,
mon cher Kaf.
Ouais, c'est super verrouillé maintenant.
Donc voilà, il sort cette semaine, il y a des nouvelles mesures de sécurité. Donc le corollaire, bah, c'est que forcément, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait des pratiques douteuses quand même du côté de chez Facebook. Oh là là, qu'est-ce qu'on est surpris. Et notamment une surveillance du Bluetooth pour traquer les utilisateurs. Alors pourquoi ? Bah parce que ça leur permet, en comparant les infos de connexion Bluetooth avec par exemple des infos Wi-Fi et plein d'autres choses, ça permet de surveiller votre activité en fait et de savoir si vous êtes près de votre téléphone ou pas. Donc on arrive quand même à des degrés d'intrusion dans la vie privée qui sont assez élevés. Alors Facebook a évidemment sorti un joli communiqué de presse particulièrement hypocrite où non seulement ils disent si vous voulez vous pouvez désactiver tous ces trucs de localisation. Alors oui, sauf que non, parce que si tu veux utiliser les applications de Facebook comme Dating par exemple qui vient d'être lancé aux États-Unis, bah t'es obligé d'être localisé. Et puis en plus, Facebook admet que même si tu les désactives, de toute façon, c'est pas pour autant qu'ils vont pas continuer à te suivre via les check-in, via les events ou via d'autres infos de connexion.
Ah, ils ont trouvé un nouveau truc d'ailleurs.
Voilà.
J'en parle en deux secondes, mais ils font un tracking via l'utilisation de certaines polices de caractères dans les applications, selon l'OS en fait. Parce qu'ils ont découvert que les polices de iOS 13, par exemple, étant spécifiques, ils pouvaient traquer les mecs via les polices de caractères.
D'accord.
Donc et c'est pas les seuls. Hein. Il y a d'autres mecs qui ont suivi sur l'histoire. Donc, le grid les rend très ingénieux.
Et le communiqué de presse, donc particulièrement hypocrite, comme je le disais, se termine dans une espèce de tour de force absolument fabuleux, où en gros, ils sont en train de tirer la couverture à eux par rapport justement à ces nouvelles fonctionnalités de sécurité sur iOS 13, presque comme limite si c'était eux qui les avaient inventées, en disant qu'ils sont toujours très très concernés par la protection des données de leurs utilisateurs. Et ils se félicitent des progrès qu'a fait Apple dans le domaine, comme si c'était une bonne chose pour
grâce
eux.
Grâce à eux, évidemment.
Voilà, bien sûr.
En même temps, c'est vrai.
Donc voilà, méfiez-vous de Facebook, on le dira jamais assez. Moi, plus ça va et plus je me demande si je vais pas vraiment une bonne fois pour toutes fermer tous mes comptes Facebook, WhatsApp et compagnie, parce que là, ça devient, c'est plus de l'intrusion, quoi. Là, c'est carrément, t'as un mec à côté de toi qui est en train de regarder ce que tu fais toute la journée, c'est un petit peu chiant.
Ouais, vu ce que je fais, c'est que globalement, il récupère pas mal de conneries sur mon sujet, donc moi, ça fait à la limite, ça m'amuse, mais, ouais. Mais c'est vrai que c'est n'importe quoi. Je fais juste une aparté, parce qu'on parlait d'iOS 13. Je vous mettrai le lien dans le biais du podcast sur la review de Mac Stories qui est sortie, qui fait évidemment 72 pages comme d'habitude. Et je vous confirme que je n'écrirai pas une ligne sur le sujet, en tout cas encore moins de ce niveau-là, parce que ça ne sert à rien de se battre contre un mec qui a bossé 300 heures dessus. Et c'est en plus très joliment présenté, et ceux qui s'intéressent au sujet auront toutes les informations là-dedans.
Et moi, je vous linkerai pour ma part un papier de TechCrunch qui fait le résumé justement de cette affaire Facebook et la surveillance de votre Bluetooth.
Et c'est la fin de ce 101e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine, 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, n'oubliez pas de faire un saut sur le Patreon. Venez nous soutenir, mettre 1€, 2€, 10€, 100€, je sais pas, ce que vous voulez. Tout fait plaisir.
Faire une levée de fonds, pensez à nous.
Voilà, exactement. Nous on se retrouve la semaine prochaine. On va retourner bosser. On va retourner soigner sa voix, caféine. Hein?
Alors, pas ce soir.
Ce soir, tu vas encore aggraver les choses.
Ce soir, je vais voir une partie un des éléments d'étoilier, un de mes autres podcasts. Par contre, après, oui. Après, je rentre dans ma caverne et j'attends que les cordes vocales cicatrisent. Ça ne va pas du tout. Je suis très fatigué.
Allez, bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao tout le monde.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
Hey, how's your girl, man?
She left me.
Oh.
Yeah, my mom died, too. And my dad got deported. But I got the van.
It's nice.
Yeah, right?